RCF. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai rencontré une personne formidable et que, si vous êtes très très sage, je vous ferai peut-être rencontrer un jour via la magie des ondes. Mais avant cela, je voudrais vous faire partager un des échanges que nous avons eu sur son métier de coach dans les entreprises et auprès des dirigeants. Quelqu'un le questionnait sur comment il faisait pour améliorer la communication dans les entreprises et comment il s'y prenait. Sa réponse, même si en définitive semble évidente, a pourtant quelque chose d'intéressant. Sa réponse était la suivante. Je ne travaille pas sur la communication des entreprises, mais sur la relation entre les hommes dans les entreprises. Facile, allez-vous me dire, de jouer ainsi sur les mots, et pourtant cette différence est importante. C'est peut-être même ce qui fait aujourd'hui la singularité entre une entreprise lambda qui met sur la table des millions d'euros pour créer son intranet et améliorer la communication interne avec un journal interne, avec des rendez-vous internes, et l'entreprise, tout aussi lambda d'ailleurs, qui refait la cuisine, l'espace détente, en rendant agréable et convivial les ensembles d'endroits où on va pouvoir se réunir, se retrouver et travailler. L'une permet la communication, l'autre permet la relation. Bien entrer en relation, c'est mieux connaître l'autre. Mieux connaître l'autre, c'est le rendre plus réceptif à son environnement. Les attentes et les désirs de ses collègues peuvent être ainsi reçus avec bienveillance. Le client peut être aussi inclus dans cette démarche et ainsi donc mieux communiquer les valeurs de l'entreprise en interne comme en externe. Qu'est-ce qui fait par exemple la différence entre RCF et d'autres radios plus musicales et commerciales ? Eh bien, le fait par exemple de créer de la relation avec les auditeurs. Cependant, créer de la relation n'est pas si simple, en tout cas moins simple que de faire de la communication, car communiquer ne demande pas d'implication de la personne, n'implique pas d'implication des collaborateurs au sens de l'engagement, à l'inverse du travail qui consiste, lui, à créer de la relation dans l'entreprise. Et derrière une entreprise où il fait bien-être et où la relation prime sur la communication, eh bien, chercher les hommes, les femmes qui en sont à l'origine. Certains appellent ça des trackers de bienveillance. Eh bien, cherchons ces trackers de bienveillance. Moi, je vous souhaite bien le bonjour. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions sur RCF, 12h-13h, en plein cœur de ce week-end de l'Ascension, l'avant-dernier grand week-end du mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien, où que vous soyez en France. Peut-être nous écoutez-vous d'ailleurs en podcast et pas du tout pendant le pont de l'Ascension. En tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus dans l'écho des solutions. Un magazine consacré cette semaine à l'ordolibéralisme au travers d'un ouvrage qui s'appelle « Pour un libéralisme humaniste ». Et c'est son auteur Alexis Carclin-Marchais qui sera notre invité du dossier de l'écho des solutions. On évoquera avec lui ce qu'est l'ordolibéralisme, comment il se situe entre le libéralisme et le néolibéralisme, si tant est qu'il ait une place d'entre-deux ou peut-être est-il plus globalisant. Bref, on verra tout cela avec lui d'ici une petite vingtaine de minutes. À la fin de cette émission, on retrouvera notre invité des 7 minutes pour changer le monde et je vous emmènerai à Clermont-Ferrand à la rencontre d'un festival de musique actuelle européenne, mais qui est aussi un média de culture et de musiques actuelles. Il s'agit d'Europavox et vous pourrez même entendre quelques artistes dans l'émission de cette semaine. Et puis on retrouvera Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Maxime Dupont a décidé lui de faire le pont, mais on retrouve tout de suite comme chaque semaine notre invité Echo et c'est le grand retour de Flavie Depré sur les antennes d'RCF pour nous présenter le top 50 des entreprises à impact. Flavie Depré, directrice générale de Care News, est notre invité Echo de cette semaine.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, je vous le disais à l'instant, c'est le grand retour sur nos antennes de Flavie Depré. Bonjour Flavie.
Bonjour Patrick.
Quelle joie de vous retrouver sur nos antennes et bien sûr parce que vous avez de l'actualité. Vous êtes directrice générale de Care News, le média de l'engagement. Vous venez de faire paraître ou du moins de dévoiler plutôt le top 50 des entreprises à impact de l'année 2022. C'est la troisième édition déjà. Flavie Depré, vous qui êtes au cœur des questions de l'engagement, de ces acteurs de l'engagement, comment est née cette idée de faire un classement, de repérer quelles étaient les entreprises à impact au travers d'un top 50 ?
Alors, c'est une idée qui a un peu plus de 3 ans. Je précise que c'est un classement de l'entrepreneuriat impact parce qu'il y a beaucoup d'associations dedans et que dans l'ESS ou dans le secteur de l'impact, on dit souvent que le statut ne fait pas la vertu. Donc, c'est une décision qu'on a prise au tout début de ce classement. Il est né pendant un des premiers salons Change Now. Et c'était à une époque où il y avait beaucoup de classements de PDG, de CAC 40, de grosses entreprises. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas l'équivalent pour le secteur de l'entrepreneuriat social ou de l'impact, parce qu'on n'ose pas se comparer, il n'y a pas beaucoup de métriques. Et c'est assez dommage parce que pour changer la norme et pour changer des choses, il faut quand même des repères. Mmh. Et c'est une rencontre aussi avec le cabinet Hatch, qui est le cabinet de conseil qui nous accompagne, où j'ai appelé son fondateur et je lui ai dit, Alexis, voilà, j'ai un projet un peu fou, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une méthode unique pour pouvoir comparer et pouvoir voir comment évoluent dans le temps toutes les structures à impact, mmh. ce qui n'avait jamais été fait, ce qui semblait un peu impossible. Mais avec l'aide de quelques comparses, dont Thierry Sibieux de l'ESSEC Business School, nous avons réussi.
Un top 50 de l'entrepreneuriat impact, Flavie Depré, ça fait 3 ans maintenant. Est-ce que, avant de dévoiler un petit peu quels sont les résultats de cette année 2022, puisque bien évidemment ce sont les entreprises qui ont impacté l'année 2022, qui viennent d'être dévoilés en 2023. Est-ce qu'on retrouve un petit peu dans le classement un peu toujours les mêmes ou est-ce que les choses bougent ?
Non, les choses bougent beaucoup pour deux raisons. La première, c'est que il faut bien avoir conscience que c'est de la donnée entrante. Mmh. Donc tout le monde ne postule pas d'une année sur l'autre, même si le nombre de dossiers étudiés et reçus reste stable. Et la deuxième, c'est que comme c'est un classement qui est très exigeant, il y a 80 questions répartis sur plusieurs pôles. En fait, les notes bougent d'une année sur l'autre. Donc, on a des lauréats de cette année qui ont une moins bonne note que l'année d'avant. On a des gens qui sortent du classement. Malheureusement, c'est un peu le jeu. Mm-hmm. Donc, il y a un vrai renouvellement cette année avec, il me semble, 50% de structures nouvelles.
Mm-hmm. Alors, justement, vous avez souhaité aussi répartir ces structures par grandes thématiques qui se rapprochent de très près des objectifs du développement durable. C'était aussi important de montrer comment l'entrepreneuriat impactait différents secteurs plutôt que de parler d'un grand classement d'un top 50.
Oui, les catégories sont là dans un souci de cohérence, d'équité. En fait, on avait beau avoir l'ambition d'avoir une méthodologie unique, force est de constater que selon la nature en fait, de la catégorie et donc de la solution qui est proposé. Il y a des ordres de grandeur en termes économiques, de salariés qui sont liés à la nature des métiers. Par exemple, la formation professionnelle et l'insertion, c'est des secteurs qui pèsent très très lourd économiquement et en termes de masse salariale, quand des solutions plus start-up ou des assos sont plus légères. Donc nous, c'était aussi pour pouvoir avoir un panel représentatif et ne pas avoir, entre guillemets, que des mastodontes et pouvoir, malgré un souci vrai de méthodologie unique, pouvoir avoir quelque chose qui ait du sens. Et c'est pour ça qu'on a utilisé des catégories qui vont d'ailleurs changer l'année prochaine.
Alors justement, un top 50, ça veut dire un classement. Il y a le premier aujourd'hui du top 50, toutes catégories confondues, c'est Lemon Tree, qu'on connaît bien hein, sur nos antennes, qui travaille justement à la réduction des déchets, à permettre moins de gâchis. Est-ce que c'est important pour une entreprise d'être en tête de ce top 50? Un peu, j'ai envie de dire, comme les étoiles du guide Michelin. Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise d'être dans ce top 50, d'être bien classée? Est-ce qu'il y a des réalités, alors peut-être pas de clients, mais peut-être de possibilités d'accès à des investissements?
Alors, tout à fait. Alors, on n'a pas été comparé aux étoiles Michelin, on a été comparé aux étoiles de coupe, enfin de match de foot, de coupe du monde. Oui, alors pour Lemon Tree, je peux parler au nom d'Augustin, parce qu'il a lui-même eu ces mots, c'est que lui considère ça comme un rendez-vous annuel et un challenge permanent. Il y a clairement des associations et des structures qui l'utilisent soit en interne, c'est-à-dire auprès de leur board, de leur conseil d'administration, comme un signe de reconnaissance auprès de leurs mécènes ou de leurs financeurs. Et on a des marques d'intérêt très fortes, il est vrai, des investisseurs qui veulent connaître la méthode, éventuellement l'utiliser et qui s'en servent de ce classement pour sourcer, je vais pas dire des projets directement parce que c'est pas le but, mais pour provoquer des rencontres, parce qu'il est vrai que la méthodologie est unique en son genre et fait ressortir des projets. Ça, c'était l'idée de départ, qui sont très solides en termes de chiffres, mais peut-être pas médiatiquement encore très visibles.
Qu'est-ce qu'il ressort de cette étude en particulier en termes de grands leviers, de grands enseignements que vous avez pu retirer de cette étude, Flavie Depré?
Alors, on a retiré beaucoup de choses et je vous les invite à la lire en entier, parce que c'est pas si long. Mais on a remarqué plusieurs choses. Donc, une montée en puissance des agréments ESUS. Donc ça dit quand même l'importance du label, de la certification et aussi l'importance d'aligner ces valeurs avec
On redit peut-être pour les auditeurs, Flavie, je vous interromps, les ESUS, hein, c'est les entreprises solidaires d'utilité sociale, hein, c'est ça.
Voilà, exactement. Le deuxième enseignement, mais qui semble assez logique, c'est une relance du chiffre d'affaires et des chiffres de manière générale après. Le top 50, c'est un produit Covid. Donc là, c'est la première année hors Covid. Donc, un autre point important, c'est la mesure d'impact, qui est vraiment un sujet croissant chez les candidats et les lauréats. Cette année, 100% des lauréats ont réalisé au moins une mesure d'impact depuis leur création. Et les participants, donc les candidats à ce classement, étaient moins de 50% la première année et sont 80% aujourd'hui à pratiquer. Donc on voit que c'est une mesure, c'est une pratique qui vraiment est en train de s'ancrer. Et ensuite, il y a un petit point de vigilance sur les associations. De warning, voilà, tout à fait, qui ont un sujet de bénévoles et qui, on pense, ont beaucoup participé au Top 50 aussi par souci de reconnaissance et de visibilité.
D'accord. Donc un petit warning que vous mettez en avant. Il n'est pas encore temps de postuler pour le Top 50 de l'année prochaine, Flavie?
Non.
Ça va sourire d'ici quelques mois.
Non, ça sera l'automne prochain. Mais si vous êtes dans le secteur de l'ESS ou de la RSE, il y a deux projets sur Care News en ce moment, une cartographie des fondations et du mécénat d'entreprise et la deuxième édition d'un annuaire des solutions RSE. Donc nous avons de quoi faire d'ici l'automne.
Vous avez de quoi faire d'ici l'automne. On peut retrouver bien évidemment l'intégralité de l'étude sur votre site internet. Et puis on rappelle, parce qu'on vous aime bien, que vous avez aussi des podcasts, et particulièrement Changer la norme, que vous animez depuis plusieurs saisons déjà et qui met en avant justement des acteurs, des actrices du changement et de l'engagement sur un podcast que j'invite nous, nos auditeurs, à écouter. Je fais de la contre-pub à mon média, mais c'est pas grave, on vous aime bien. Merci.
C'est l'esprit de solidarité.
Exactement. Merci beaucoup Flavie Depré. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis, dans le dossier de l'écho des solutions, d'ici quelques instants, quelques minutes, on retrouvera Alexis Carclin-Marchais pour parler d'ordolibéralisme. Merci Flavie, à très bientôt. Au revoir.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, en ce long pont de la Pentecôte, pas du tout, en ce long pont de l'Ascension, Pierre Collignon est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de la question du travail. Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois lors de cette émission et on a l'impression qu'on n'aura jamais fini d'approfondir ce concept apparemment simple et dont la complexité réelle semble nous avoir totalement échappé, Pierre.
Oui, si l'on en parle encore et même... Soyons objectifs de plus en plus, c'est qu'effectivement, nous n'arrivons pas à résoudre cette question. Entre le quiet quitting, les démissions en hausse et les envies d'auto-entrepreneuriat, on peut vraiment parler d'un mal-être général des salariés. Dans Alternatives économiques, les sociologues Dominique Méda, Maïlézig Bigi et Agnès Parent-Thirion confirment la tendance et dressent le portrait d'un travail malade, je dis bien malade, et d'une situation qui se dégrade depuis des décennies.
Alors, que faut-il faire et comment peut-on en déterminer les causes surtout?
Elles sont multiples, bien sûr, et il serait long et fastueux de les passer toutes en revue. Quand on interroge les salariés, quelques éléments ressortent cependant de manière systématique. Trop de pression, trop de process et de normes, trop de pilotage par les chiffres, des objectifs imposés par l'extérieur, pas ou peu d'autonomie, tout cela conduit à cette comédie inhumaine décrite par la philosophe Julia de Funès et qui est particulièrement rejetée aujourd'hui et notamment par la jeune génération.
Alors Pierre, c'est le refus d'un travail insensé, un travail mutilé qui ne tient pas compte des aspirations humaines.
Oui, dans leur ouvrage « Redonner du sens au travail », les économistes Thomas Coutreau et Coralie Pérez reviennent sur cette notion de sens et insistent sur le fait qu'on peut distinguer trois dimensions du sens au travail. Le premier, c'est le sentiment d'être utile au destinataire de mon travail, qui ne se confond pas, bien sûr, avec la reconnaissance. Beaucoup de salariés estiment faire un travail utile sans bénéficier pour autant d'une reconnaissance sociale ou même salariale. La deuxième, c'est la fierté du travail bien fait, ce que Christophe Dejour appelle le sentiment de beauté porté par les collègues ou par ceux qui connaissent le métier. Enfin, le travail doit transformer positivement la personne. Elle doit permettre de le faire grandir, d'apprendre des choses nouvelles et de développer ses talents. Alors, ces trois points sont essentiels pour donner du sens au travail et ils peuvent être évalués simplement. Est-ce que je fais quelque chose d'utile aux autres? Est-ce que j'éprouve le sentiment du travail bien fait ou non? Ai-je l'occasion de développer mes compétences professionnelles, d'organiser mon travail de la manière qui me convient le mieux?
Alors, quelle conclusion, Pierre, peut-on tirer de tout cela?
Méfions-nous des remèdes miraculeux, mais souvenons-nous quand même que le principal acteur du travail est une personne et que toute personne a des besoins fondamentaux qui peuvent se réaliser dans le travail. Alors, quand on est un chef d'entreprise, quand on est un dirigeant, eh bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se poser ces trois dimensions, ces trois questions qu'on évoquait à l'instant et qui permettront peut-être, quand on y répondra, eh bien, de mettre en œuvre un certain nombre de solutions susceptibles de redonner ce sens que tout le monde cherche aujourd'hui.
Eh bien, ça tombe bien puisqu'on est dans l'écho des solutions. Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique. Nous, on continue en musique avec la playlist d'EuropaVox qui seront nos invités des 7 minutes pour changer le monde. Et on retrouvera notre invité Alexis Carclin-Marchais pour son ouvrage « Pour un humaniste, un libéralisme humaniste ». Voilà, merci beaucoup Pierre, à très bientôt, au revoir.
Quand je te revois, maman, c'est ça. Je retrouve les vraies valeurs. Un si grand cœur, une si belle âme, qui ne se soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle était comme moi, issue de ce pays glacial. Maintenant qu'elle vit au Kenya, c'est l'Africaine occidentale. Non, je ne connais pas l'Afrique.
Non, je ne connais pas l'Afrique.
Et gris est ma couleur de peau.
Et gris est ma couleur de peau.
La vie est une machine afrique.
La vie est une machine afrique.
Où les affreux n'ont pas d'afro. Tous ces jeunes américanisés, niqués de la tête aux pieds. Génération très très marquée. Maman, ça m'est consternée. À cette époque où faire l'amour est un danger pour l'humanité. Il est honteux d'afficher nique sur nos vêtements dégénérés. Non, je ne connais pas l'Afrique.
Non, je ne connais pas l'Afrique.
Ma couleur de peau,
et gris est ma couleur de peau.
La vie est une machine afrique.
La vie est une machine afrique.
Où les affreux n'ont pas d'affront. Maman Sam, cette fois c'est décidé. M'éloigner de Paname fera le plus grand bien. Et si ça se trouve, je ne reviendrai jamais. Je serai le plus blanc bec de tous les Africains. Non, je ne connais pas l'Afrique.
C'était Mama Sam, interprété par M, issu de la playlist du festival EuropaVox. EuropaVox qui seront nos invités des 7 minutes pour changer le monde. Mais on ouvre, nous, tout de suite le dossier de l'écho des solutions où on parle de libéralisme et d'ordolibéralisme avec Alexis Carclin-Marchais.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, et on continue notre émission avec notre invité de cette semaine, Alexis Carclin-Marchais, pour son ouvrage « Un libéralisme pour un libéralisme humanisme » aux presses de la Cité. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Alexis.
Bonjour Patrick Longchamp, merci de votre invitation.
Merci beaucoup donc d'être avec nous. On va évoquer cette question. Alors la question que vous posez, c'est pour un libéralisme humaniste, sous-jacent une forme d'économie ou une réflexion économique. Il y a le libéralisme, il y a le néolibéralisme, il y a l'ordolibéralisme. C'est celui que vous détaillez au sein de cet ouvrage. Quelques mots de présentation quand même. Vous êtes économiste, vous êtes franco-américain, vous êtes diplômé de Paris Dauphine. Vous êtes enseignant à l'Université Caroline du Nord. Vous venez de sortir donc cet ouvrage aux éditions des presses de la Cité. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser, Alexis Carclin-Marchais, à cette question d'un autre positionnement du libéralisme ?
Le point de départ est finalement assez simple. J'ai des convictions libérales affirmées, mais je suis aussi lucide, notamment dans un pays comme le nôtre. En France, le libéralisme est souvent associé, assimilé à des choses négatives, à des valeurs négatives. Je parle d'individualisme, je parle de logique financière, je parle d'inégalité, je pense également à la destruction de l'environnement, qui est une thématique de plus en plus importante. Et donc l'idée que le libéralisme, notamment en matière économique, serait associé, c'est ce que j'ai appelé dans le livre les 7 péchés capitaux du libéralisme, qu'il serait associé à des valeurs négatives et donc qu'il faut le rejeter absolument. C'est presque devenu une insulte dans le débat, en tout cas en France, pas dans d'autres pays, mais chez nous c'est très prégnant. Et d'ailleurs, vous avez rarement des candidats dans des élections qui viennent avec l'étiquette libérale. C'est presque se tirer une balle dans le pied au moment d'une élection. Voilà. Donc, je suis parti de ce constat, qui est, je crois, un constat lucide, et pourtant, une conviction que beaucoup d'éléments du libéralisme, qui est plus qu'uniquement une théorie économique, c'est une philosophie fondamentale, qui est une philosophie de l'émancipation de l'individu, et dans laquelle je crois beaucoup, et aussi pour des raisons familiales et des raisons de lecture et de conviction, après avoir eu le plaisir et le privilège de traverser la planète et de voyager dans beaucoup de pays, que c'est une philosophie d'avenir. Simplement, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, et notamment ce courant principal qu'on appelle, alors de façon un peu simplifiée, parfois un peu simpliste presque, le néolibéralisme, eh bien qu'il y a un certain libéralisme qui est rejeté aujourd'hui, qui est rejeté, là pour le compte, dans un certain nombre de pays, pas seulement en France, et c'est une version que j'appelle, moi, le libéralisme du laisser-faire, alors, sous-entendu, la solution, ça serait d'avoir un État quasiment absent et de laisser les individus faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est cette forme-là, Patrick, ouais, que j'ai voulu corriger en m'intéressant un courant alternatif du libéralisme, l'ordolibéralisme.
Alors justement, posons peut-être quelques définitions. Quelle différence déjà fait-on entre libéralisme et néolibéralisme ?
Alors, il y a beaucoup de définitions. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, en plus elle évolue dans le temps, quand on est dans les années 30, pardon, le néolibéralisme, c'est presque l'ordolibéralisme. C'est cette idée qu'il faut réinventer le libéralisme, puisque le libéralisme classique du laisser-faire, c'est celui qui a conduit à la crise de 29. En tout cas, c'est interprété comme tel. Et donc, on parle de néolibéralisme, toutes les formes corrigées du libéralisme, avec un État plus interventionniste, pour le faire simple et pour le dire rapidement. Mais ça, c'était dans les années 30. Depuis, on va dire, depuis la révolution, la contre-révolution libérale des années 70, on connaît à l'époque dans le monde occidental l'inflation et le chômage en même temps, les idées keynésiennes sont attaquées, arrivent les idées de Milton Friedman, les idées de Hayek, elles sont incarnées politiquement par Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, on parle à nouveau de libéralisme et on parle de ce néolibéralisme qui est, pour le compte, un libéralisme dérégulé, un libéralisme du laisser-faire, et c'est cette idéologie, cette philosophie, qui a eu d'ailleurs un certain nombre d'effets positifs. Le monde, depuis 40 ans, a cru beaucoup, et il y a une création de richesses, et pas seulement pour les plus riches. On sait que si on prend un seul critère, qui est le nombre d'habitants dans le monde qui vivent dans l'extrême pauvreté, il a considérablement reculé, notamment parce que les pays se sont ouverts au commerce international, qui est un des grands principes du libéralisme dérégulé. Il y a eu des effets positifs. Mais on arrive aujourd'hui à une critique, je l'évoquais, quasi systématique de ce néolibéralisme. Et donc, quand on parle du néolibéralisme, on parle sans doute aujourd'hui de ce libéralisme dérégulé, ce libéralisme du laisser-faire, qui avait déjà été critiqué au début des années 30, après la crise de 29, et qui a à nouveau critiqué, pour les éléments que j'évoquais, à la fois les inégalités, la destruction de l'environnement, et puis une certaine philosophie de la vie. On voit bien que c'est pas parce qu'on a plus de biens, de consommation, qu'on est plus heureux. Et donc, il y a une réflexion profonde qui est engagée. Le libéralisme, au sens large, sans lui accoler le préfixe de néo. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus fidèle. J'allais dire, c'est le terme générique pour toutes les familles du libéralisme. Mmh. Le libéralisme est multiple en réalité. Il est très divers. Il y a beaucoup de courants dans le libéralisme. Et l'ordolibéralisme en est un. Et c'est celui-là qui m'a intéressé parce que je crois qu'il adresse un certain nombre, qu'il répond à un certain nombre de problématiques du monde actuel et qu'il apporte un certain nombre de réponses. Alors, pas toutes les réponses, mais un certain nombre de réponses. Et ça m'a paru intéressant de partager cette philosophie, de la faire mieux connaître parce qu'elle existe depuis des décennies et qu'on avait tendance à l'oublier.
Alors, on va évoquer cette question de l'ordolibéralisme pour essayer de mieux le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on soit obligé de réinventer ? On a le sentiment, alors peut-être d'une autre manière, peut-être que c'est arrivé en 2008 et que ça n'a pas été comme en 1929, un crack qui a vraiment donné une obligation de repenser le monde, mais on a une sorte de crack qui, boursier, financier, humain, qui se prolonge de 2008 jusqu'à 2023. Vous pensez que c'est ça aujourd'hui, c'est cette grande continuité qui nous fait nous replonger dans une réflexion sur une nouvelle forme de libéralisme ?
Absolument, et ce que je vous dis n'est pas juste une conviction personnel unique. L'économiste Patrick Artus, qui est bien connu, qui fait beaucoup de publications, a notamment sorti un livre il y a deux ans, sur justement les limites du capitalisme actuel, partant de 2008 et constatant que nous sommes dans un monde de petite croissance en Occident, petite croissance économique, avec des questions fondamentales sur les inégalités, avec des questions fondamentales sur la destruction de l'environnement, avec aussi un système économique, ou en tout cas jusqu'à récemment, qui était compliqué à analyser, avec des taux d'intérêt, par exemple, on était sur des taux d'intérêt quasiment à zéro pour certaines émissions d'État, donc un coût du capital qui n'était plus du tout représentatif, et donc des distorsions en tous les sens, avec une création monétaire massive qui s'est traduite, qui s'est notamment dans les conséquences par une inflation. Il n'y a pas que ça qui explique le retour de l'inflation, mais c'est un des facteurs que l'on voit aujourd'hui dans l'inflation, et donc qui vous frappe et qui nous frappe et qui frappe beaucoup de Français. Et donc, il y a eu une critique croissante depuis cette crise de 2008-2009 qui est aujourd'hui arrivée à un point où beaucoup de voix s'élèvent contre le libéralisme tel qu'il existe, qu'on appelle depuis tout à l'heure le néolibéralisme. Il y a une critique croissante et les réponses qui sont données à cela, quelles peuvent être ? Quand on regarde les différentes critiques, et les propositions qui sont faites, ça serait quoi ? Encore plus d'État ? Alors oui, certains disent qu'il faut arrêter, il faut sortir du capitalisme. On sait à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de sortir du capitalisme, ça s'est toujours traduit en totalitarisme. Donc le capitalisme a 1000 défauts, mais j'allais dire c'est presque le moins mauvais des systèmes. Il y a la volonté pour d'autres d'être beaucoup plus interventionniste, d'avoir un État encore plus présent.
Et c'est le risque du collectivisme.
Oui, et avec le risque d'aller vers le collectivisme, et on le voit même en France, où on le sait bien. On a un État omniprésent, je pense que tous nos auditeurs le savent, et il est très très présent, alors pas toujours à bon escient. Ça se traduit aussi par une bureaucratie qui est très fatigante, par des normes dans tous les sens, et donc on voit aussi que la proposition d'avoir un État plus interventionniste, elle a des limites, et surtout quand on a des records de prélèvements obligatoires et des records de dépenses publiques, j'allais vous dire, si la solution c'était l'État, la France serait le pays le plus heureux du monde. Or, je crois qu'il est logique, même s'il y a sans doute des facteurs culturels qui l'expliquent, il est assez juste, et il faut qu'on soit lucide, nous faisons partie des pays les plus dans la défiance, les plus négatifs, les plus pessimistes, et donc l'État n'est pas la réponse à tout. Donc j'ai cherché, comme d'autres, j'ai parlé de l'ordolibéralisme, mais je ne suis pas le premier, Patrick Artus dans son livre aussi en parle, très bien, en disant que c'est une philosophie de référence pour repenser une autre voie, voie différente.
Ce qu'on voit bien, c'est que l'ordolibéralisme dont vous nous parlez n'est pas né de nulle part. Hein. C'est une pensée économique qui naît dès la fin du 19e siècle, qui prendra un petit peu son essor et puis qui retombera un petit peu dans l'oubli pour ressortir aujourd'hui.
Son vrai, on va trouver effectivement les origines dès le 19e siècle, et même en remontant, on va même trouver des origines dans la philosophie grecque, donc de l'Antiquité, et puis dans la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, notamment Emmanuel Kant. L'ordolibéralisme est né en Allemagne. Mmh. Et le vrai acte fondateur, le moment fondateur, on est au début des années 30, 1930, donc juste après la crise de 1929. On sait que l'Allemagne est terriblement frappée. Parmi tous les pays qui sont frappés par la crise, l'Allemagne fait partie de ceux qui sont le plus frappés. Et donc, à ce moment-là, le libéralisme est accusé d'être la cause de cette crise économique absolument terrible. Beaucoup prônent un interventionnisme massif, à commencer par un parti politique croissant, le Parti national-socialiste allemand, les nazis, qui ne sont pas encore au pouvoir. Et à Fribourg, mais pas que à Fribourg, et notamment à l'Université de Fribourg, avec des économistes comme Walter Eucken, ou Wilhelm Röcke, qui lui est d'une autre université, ces deux économistes, et quelques autres, des juristes également, réfléchissent à une solution autre, une solution médiane, une voie médiane, qui serait de réinventer le libéralisme, craignant justement la fin du libéralisme, considérant que le libéralisme économique et philosophique sont les seules structures qui peuvent permettre d'avoir une société démocratique. Et pour vous dire à quel point les ordolibéraux voient juste, malheureusement voient juste, Wilhelm Röpke écrit au début des années 30, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ceux qui vont voter pour les nationaux-socialistes, pour les nazis, pensent qu'ils vont avoir l'ordre. Mmh. En réalité, ils auront le chaos, ils auront la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Mmh. Et évidemment, Hitler arrive au pouvoir en 1933. Quelques mois plus tard, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, qui sont deux ordolibéraux, sont contraints de quitter l'Allemagne. Ils partent en exil, d'abord en Turquie et pour Röpke, ensuite en Suisse. D'autres entrent en résistance. Et donc, ce mouvement est né du rejet du totalitarisme, mais aussi d'une critique du libéralisme du laisser-faire.
Alors,
et ensuite... Ouais, pardon, pas...
Non, non, mais c'est passionnant, c'est passionnant, mais je vois le temps qui passe, et en fait, on n'a toujours pas défini ce que c'était que l'ordolibéralisme, et les auditeurs doivent se demander, mais on parle de quoi finalement, et qu'est-ce que ça va permettre, et quelle solution pour notre monde contemporain? Donc, qu'est-ce que c'est que l'ordolibéralisme?
Alors, très simplement, en une phrase de Wilhelm Röpke, l'économie de marché est une condition nécessaire, mais non suffisante, d'une société juste, libre et pérenne. Sous-entendu, il faut l'économie de marché, mais il faut aussi la réguler. Donc, l'ordolibéralisme est, j'appelle ça souvent un libéralisme bien tempéré, c'est un libéralisme régulé, où l'État retrouve un rôle à jouer, au-delà du régalien, et je vais vous donner deux exemples très concrets. D'abord, dans la régulation de la concurrence, la volonté de toujours privilégier la concurrence, parce que la concurrence empêche les rentes et parce que la concurrence est favorable aux consommateurs, évite les lobbies, évite les monopoles. Donc il faut éviter absolument les monopoles ou les oligopoles qui se font au détriment de la société.
Donc là, vous pensez à nos GAFAM qui sont quasiment, au-delà d'être des monopoles, deviennent aussi des organismes étatiques, puisqu'on voit certains ambassadeurs auprès de Facebook, Google et autres de certains États.
Absolument, absolument. Vous arrivez à voir des entreprises qui sont tellement puissantes qu'elles sont aussi puissantes, voire plus puissantes que des États, où les dirigeants discutent directement avec des chefs d'État qui ont été élus démocratiquement, d'égal à égal. Et donc, ça pose un problème. Les ordolibéraux dénonçaient déjà cela dans les années 30, 40, 50. Vous savez qu'ils ont été les grands artisans de la reconstruction allemande après la guerre et le miracle allemand, le fameux miracle allemand des années 40, 50, 60, élus aux ordolibéraux qui ont été les conseillers des gouvernements et justement sur le principe de concurrence. Deuxième exemple très important qui nous concerne encore aujourd'hui, les inégalités. Les ordolibéraux sont opposés à l'État-providence. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que l'État-providence, c'est un État qui intervient pour tout, pour tout le monde et tout le temps. Or ça pose un problème, parce que d'abord ça coûte cher en impôts, et ensuite ça développe de la bureaucratie et de l'inefficacité. Et la réalité, c'est qu'on voit que finalement, on veut corriger la pauvreté, et on a raison de vouloir le faire, parce que, là encore, principe ordolibéral, l'économie de marché génère des inégalités, donc il faut pouvoir les corriger. Ça passe par l'acceptation de la redistribution, mais pas pour tout le monde, tout le temps, sur chaque sujet, parce que ça devient beaucoup trop coûteux et beaucoup trop inefficace avec des États, un État qui devient omniprésent.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire
qui génère des inerties.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si on est très riche, je vais faire des amalgames. Hein. Mais si on est très riche, on aura une redistribution qui sera moindre que si on est très pauvre ?
Oui, en ce qui me... Voilà, exactement. Si je prends mon exemple, je travaille dans une société, ça va plutôt bien. J'allais dire, je pourrais avoir une assurance privée, j'ai pas de problème à avoir des assurances publiques, mais il y a les systèmes mixtes. En tout cas, d'avoir tout public n'est pas la réponse, selon les principes ordolibéraux, ça n'est pas la réponse à tout.
Donc pas d'égalitarisme, plutôt de l'équité.
C'est ça, exactement. On revient à ce principe d'équité, avec un État qui intervient pour aider à la transformation de la société, parce que la réalité, encore une fois, c'est qu'on le voit bien sur le plan technologique, ça va à toute vitesse, on le sait très bien, et ça crée des disruptions dans tous les secteurs en permanence. Donc les entreprises, il faut les laisser les plus libres possible, mais il faut, en tout cas c'est accepté, qu'il y ait un État qui vienne derrière et qui accompagne les transformations de la société dès lors que cela n'empêche pas la transformation et non pas juste la conservation. Mmh. Vous voyez, maintenir des activités qui sont appelées à disparaître ou qui sont obsolètes juste pour préserver l'emploi, mmh. ça coûte trop cher et ça ne sert à rien. Mmh. En tout cas, ça n'est qu'une vision court-termiste et donc c'est forcément critiquable.
Concurrence, pas d'État-providence, donc une présence de l'État, mais à sa juste place.
À sa juste place, exactement. Et puis un troisième facteur, qui est sans doute pour moi le point le plus important. Le libéralisme n'est pas juste une théorie économique, et a fortiori, l'ordolibéralisme n'est pas juste une théorie économique. C'est aussi une vision, une philosophie de la société, où il y a une critique de l'homo consumens, c'est-à-dire de la consommation pour la consommation, du monde que nous avons créé, ou qui a, il faut le critiquer avec nuance, mais qui est trop tourné sur la consommation, nous en oublions l'importance de la culture et du spirituel. Mmh. Et donc il y a des pages et des pages qui sont consacrées par les ordolibéraux à ces sujets, à l'homo culturaliste, à l'homo spiritualiste, ce que vous êtes, ce que je suis, ce que nous sommes tous, et de l'importance de la culture dans notre bien-être et notre bonheur. Et donc le bonheur, c'est-à-dire vraiment cette capacité à être, au fond, l'émancipation, elle passe aussi par la culture. C'est pas juste le pouvoir de consommer, c'est d'abord, et ça devrait être d'abord et avant tout, le pouvoir de s'instruire. Donc ça passe par une politique éducative très ambitieuse, ça passe par l'accès à la culture du plus grand nombre, donc ça passe par une politique culturelle qui ne veut pas dire forcément de l'État. Mmh. Hein, ça peut passer par l'encouragement des associations, des instituts culturels, des organisations multiples et variées, des individus, des initiatives individuelles pour encourager au partage de la culture. Et là, je crois que ça répond vraiment à une problématique de notre temps. On voit bien que consommer plus, encore une fois, n'est pas la réponse au bien-être. Mmh. S'il faut bien sûr pouvoir manger à sa faim et se faire plaisir, mais l'argent n'est pas la réponse à tout. Et ça, je pense qu'on a du mal à l'imaginer, mais ce sont des libéraux qui écrivent ça. Et donc, je pense que c'est une dimension absolument passionnante qui mérite d'être encore défrichée et poussée.
Alors, pourquoi cet ordolibéralisme tel que vous nous le présentez? Bien évidemment, vous avez travaillé une bonne année sur cet ouvrage, donc vous en êtes encore tout pétri. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cet ordolibéralisme tel que vous le présentez, qui est séduisant, finalement prend assez peu de place dans nos politiques économiques, dans nos politiques publiques, dans notre vision du monde et de l'économie?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est évidemment une excellente question. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, parce que souvent, en France en tout cas, l'ordolibéralisme s'est associé à l'Allemagne et donc s'est associé à un principe extrêmement réducteur qui est de la rigueur budgétaire et de la rigueur en matière de gestion monétaire. Alors, c'est vrai, il ne faut pas le nier.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne fait de l'ordolibéralisme aujourd'hui dans sa manière de
fonctionner. L'Allemagne en a fait et elle est souvent accusée de continuer à en faire. Et notamment dans la pression qui peut être mise via l'Union européenne dans la volonté de réduire les budgets, les déficits budgétaires. Alors, vous me permettrez de sourire parce que la France va connaître l'année prochaine sa 50e année consécutive de déficit budgétaire. Donc si vraiment l'ordolibéralisme était l'idéologie dominante en Europe aujourd'hui, ça se saurait. En tout cas, la France ne le suit pas du tout. Donc il y a une vision un peu caricaturale parce que c'est une vision de rigueur budgétaire, rigueur monétaire. Et ça n'est pas complètement faux. Il y a chez les ordolibéraux, cette idée que de gérer dans la durée un budget d'État en équilibre est quelque chose d'important pour qu'il y ait une forme de visibilité pour les investisseurs et les consommateurs, parce que sinon on se dit que ça va être de la dette et des impôts futurs. Donc il y a cette crainte-là et c'est une réalité. Mais c'est première raison, c'est-à-dire cette caricature. Deuxième raison, tout simplement parce que le libéralisme en France, dès que vous mettez le mot libéral, fortiori même si vous le qualifiez de néo-ordo, ultra, c'est un rayon social-libéralisme, tout de suite c'est libéralisme, mon Dieu, le danger, la loi du plus fort, le sauvage, etc. Alors qu'on est exactement en train de parler d'exactement autre chose, comme vous l'entendez. Donc il y a tout un travail de partage d'informations, et modestement, vraiment très modestement, j'ai souhaité avec cet ouvrage faire connaître une des voies du libéralisme. Il y a d'autres voies, mais celle-là me paraît intéressante et répondre.
Pourquoi le
qualifiez-vous, un vrai libéralisme européen.
Pourquoi le qualifiez-vous d'humaniste, pour un libéralisme humanisme? Qui dit humanisme dit finalement qu'il y a une prise en compte de chacun?
C'est ça. Alors, humaniste, parce que la grande valeur de l'humanisme, quand on remonte aux grands auteurs de la Grèce antique, et ça a été réaffirmé ensuite avec Thomas d'Aquin, puis plus tard avec la Renaissance et au siècle des Lumières, c'est la dignité humaine et c'est l'émancipation humaine. Et donc, que chaque individu puisse trouver sa voie, s'émanciper de certains déterminismes, et ça, c'est une idée profondément libérale, une émancipation de chaque individu, Et cette émancipation ne peut pas passer que par les capacités économiques. Elles sont importantes, mais elles sont justement des conditions non suffisantes, d'où l'importance de la culture, d'où l'importance du spirituel, d'où l'importance de la solidarité, une vraie solidarité, l'implication dans la cité avec le C majuscule, vraiment dans l'esprit grec. Et ça fait partie de cette idée-là. C'est vraiment une philosophie forte autour de cette dignité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'humanisme ordolibéral, parce qu'on ne s'arrête pas uniquement à la dimension économique et qu'il y a une finalité. Et la finalité, ce n'est pas de consommer plus. La finalité, c'est de s'émanciper. Mmh. Que chaque être humain puisse trouver, alors non pas le bonheur, parce qu'il n'y a pas une prétention totalitaire à dire ce qu'est le bonheur, mais plutôt laisser libre chacun de trouver les voies de son accomplissement personnel, de son épanouissement personnel. Et ça passe par, et bien notamment, la culture, par nos lectures, par les différents arts, et par cette éducation que nous devons toutes et tous avoir. Évidemment, c'est un grand défi, hein, j'en ai bien conscience, hein, je suis lucide aussi sur l'énorme énergie qu'il faut, mais je crois que comme finalité, nous sommes sur un projet de société qui peut fédérer beaucoup d'énergie.
Est-ce que ça veut dire que l'ordolibéralisme, finalement, est assez proche ou s'inspire de la pensée sociale chrétienne ? Je pense particulièrement à l'encyclique de Jean-Paul II, Sanctissimus Annus, qui rappelle au chapitre 3 la nécessité de voler des deux ailes, c'est-à-dire de la propriété privée, bien évidemment, mais aussi de la destination universelle des biens, d'avoir ces deux ailes qui s'équilibrent en permanence si on veut voler droit.
Alors, c'est intéressant que vous citiez Jean-Paul II, parce que lui-même a été très critique sur du néolibéralisme et du libéralisme, considérant que le profit n'était pas une finalité, qu'au contraire, c'était même une valeur de destruction. Je rattache l'ordolibéralisme, quand il naît, il est influencé à la fois par la théologie protestante, et notamment l'Église confessante. Vous savez, ce sont ces protestants allemands qui étaient opposés à l'Église protestante majoritaire et pro-nazie. Donc l'Église confessante, elle était complètement opposée au nazisme, considérant que c'était justement une négation des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Il y a aussi une influence du catholicisme, et vous parliez d'encyclique, c'est surtout l'encyclique Quadragesimo Anno, Pie XI, 1931, qui est une encyclique, quand on la lit, qui est absolument extraordinaire, parce qu'on dirait presque un programme ordolibéral. C'est-à-dire qu'il y a bien la réaffirmation de l'importance de la propriété individuelle et de l'économie de marché, mais aussi du travail à faire sur soi-même, en termes d'éthique, en termes d'accompagnement aussi des plus modestes, et donc une lutte contre des inégalités qui font du mal à la société. Et donc oui, pour répondre à votre question, très clairement, la doctrine sociale de l'Église se retrouve, elle est compatible avec l'ordolibéralisme. Maintenant, l'ordolibéralisme doit évoluer, continue d'évoluer. Vous savez, vous vous rappelez peut-être ce livre dans les années 90 de Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme. Il opposait le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rhénan. Et il parlait déjà de l'ordolibéralisme. En réalité, il n'est jamais vraiment mort. Et dans ce capitalisme rhénan, il n'y avait pas que l'Allemagne. On parlait aussi, par exemple, du Japon ou de la Corée, qui sont des pays qui ont certaines valeurs qui se rattachent à l'ordolibéralisme. Mais c'est vrai que l'ordolibéralisme a été la philosophie dominante au moment de la reconstruction après la guerre. C'était la philosophie de la démocratie chrétienne, en Allemagne bien sûr, mais même en Italie, ce qu'on oublie un peu, quand l'Italie se reconstruit, notamment avec Einaudi, qui a été un grand ami des ordolibéraux, et qui a occupé, avant d'être président de la République, il a eu des fonctions importantes dans la gestion de la finance, je crois qu'il a été d'ailleurs président de la Banque Centrale Italienne, en tout cas il a travaillé sur l'économie, la reconstruction économique de l'Italie juste après la guerre, et bien il était directement influencé par l'ordolibéralisme. Donc c'est une réaffirmation, je crois, si on essaye de prendre un peu de hauteur, de la démocratie chrétienne, dont on ne parle plus du tout aujourd'hui. Et c'est, malheureusement, je pense que c'est dommage, parce que c'est une philosophie, une vision politique fondée sur le compromis, fondée sur l'échange, fondée sur le dialogue, fondée sur la voie d'équilibre, fondée sur l'équipe, vraiment sur cette recherche de la voie médiane qui me paraît être aujourd'hui une voie d'avenir dans toutes les radicalités qu'on entend autour de nous. Ces radicalités nous font mal, et je crois qu'on doit pouvoir trouver autre chose.
Vous avez pu discuter avec quelques dirigeants de partis politiques pour leur exposer ceci. Alors je pense évidemment peut-être à ceux qui sont peut-être les plus proches de cette réflexion. Je pense au Modem, je pense peut-être à En Marche aussi, qui ont cette réflexion. Et on est quasiment à 2 ans et demi maintenant, presque, des prochaines présidentielles. Ça va très, très, très vite. Et donc, ça commence à se mettre en ordre de marche. Comment on pourrait se ressaisir de tout ça?
Alors, d'abord, j'ai discussion avec des dirigeants politiques. Alors, vous me permettrez de garder ces conversations confidentielles.
Bien sûr, on est de quelques milliers à écouter.
Je vous confirme que j'ai eu l'occasion de discuter et de partager ça, y compris, plutôt d'ailleurs, c'est intéressant, plutôt avec des dirigeants de centre-droit, des leaders politiques de centre-droit qui cherchent à réancrer une réflexion de ce que pourrait être une droite républicaine sur un substrat philosophique et économique. Mmh. Donc c'est plutôt avec... on pourrait tout à fait aussi avoir des discussions avec le MoDem. Je pense qu'il y a des valeurs qui sont communes. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de la majorité présidentielle, aussi avec des gens d'Horizon, des gens du MoDem justement, des gens de En Marche, enfin Renaissance maintenant. Et donc oui, il y a des passerelles. Il y a quand même une vraie réflexion, et ça c'est important, dans l'ordolibéralisme. Quels sont les pays qui sont finalement les plus ordolibéraux aujourd'hui? J'ai envie de vous dire la Suisse, qui est vraiment un modèle assez proche de ce que pourrait être un idéal ordolibéral, mais aussi les pays nordiques. Mmh. Pourquoi? Parce que, alors, il y a quand même des différences, mais dans les deux cas, on privilégie le dialogue social, on a une forme de décentralisation. Et c'est la vision politique de l'ordolibéralisme, c'est une vision très décentralisée. Donc l'importance des corps intermédiaires, des politiques qui sont peu interventionnistes, qui sont là au bon moment, mais pas partout et pas trop centralisés. Et donc, dans la réflexion française, de toute façon, on ne peut même pas parler d'ordolibéralisme. On va poser la question, est-ce que la présidence actuelle est ordolibérale? Il y a quelques affirmations d'idées qui peuvent être assez proches, dans les mots, de l'ordolibéralisme. Mais sauf que c'est une conception complète de la politique qui doit être revue, parce que ça doit être très décentralisé. Je crois qu'on ne peut pas dire que dans le mode jupitérien, on soit très décentralisé. Voilà.
Oui, et puis ça voudrait dire aussi remettre 2000 ans de culture étatique pyramidale en cause, et ce serait un petit peu compliqué. François Mitterrand a essayé un peu avec la décentralisation, mais on est un peu revenu dessus depuis. Merci beaucoup, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Alexis Carclin-Marchais d'avoir été notre invité du dossier de l'écho des solutions. Je rappelle votre ouvrage Pour un libéralisme humaniste aux éditions des Presses de la Cité, et en plus il a été préfacé par Nicolas Dufourcq. Merci beaucoup. Merci Alexis. Nous on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On part du côté de Clermont-Ferrand pour parler d'un festival avec François Missonnier qui s'appelle EuropaVox et qui met en lumière justement les musiques actuelles européennes. Ce sont nos 7 minutes pour changer le monde. Merci beaucoup Alexis, à très bientôt, au revoir. C'était Santa Alma Benditas avec Youssef et La Julie Luna. Ce sont des artistes qui seront présents au festival EuropaVox et issus de la playlist que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute de musique en ligne. Et on retrouve tout de suite le directeur général du festival, François Missonnier.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, et on est avec François Missonnier, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Bonjour François.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Dans l'écho des solutions, on va évoquer un festival, mais pas que, qui s'appelle EuropaVox, présent dans un certain nombre de pays européens. Vous faites aussi partie de l'écosystème Young Inspiring Europe, porté et supporté avec joie et bonheur par la Fondation Hippocrène. François Missonnier, parlez-nous un peu d'EuropaVox. EuropaVox, donc, c'est un festival, mais pas que. Dites-nous d'abord, quelle est la genèse de ce projet EuropaVox ?
Alors EuropaVox, ça a débuté en 2006, donc il y a quelques temps déjà, et par un festival de musique qui s'est installé à Clermont-Ferrand, donc au cœur de l'Auvergne, et sur un festival de musique assez classique, hein, dans le sens où programmation de groupes, de tous styles musicaux, avec différentes scènes, avec différentes propositions, et très orienté à destination de la jeunesse auvergnate, mais néanmoins avec une singularité, une patte qui est restée la nôtre depuis, c'est que c'est un festival qui est entièrement dédié à la diversité musicale européenne.
Mmh. Voilà. Alors pourquoi cette diversité européenne ? Quelle était l'idée de se dire on va faire rayonner la culture européenne ?
Ben, il y avait une double volonté derrière le projet. La première, c'était d'aider la jeune création musicale européenne à se faire connaître en dehors de ses frontières, parce que le constat que l'on fait, et c'est encore le cas, hein, c'est que la musique anglo-saxonne domine assez largement les événements, les radios, les plateformes de streaming, etc. Alors même qu'il y a plein de jeunes créateurs, que ce soit en chanson, en rock, en électro, dans l'ensemble de l'espace européen, et qui méritent, de mon point de vue, de se faire connaître plus largement. Donc c'était vraiment le premier objectif, il était là. Et puis le second, bah, il était de se dire que le projet européen, c'est un projet qui est d'une extrême beauté, générosité, c'est d'une ambition assez folle, mais qui mérite aussi peut-être d'être défendu par des thématiques autres qu'économiques et libre-échangistes, on va dire. Mmh. Et la culture est pour moi un très beau moyen de parler d'Europe, de présenter le projet dans toute sa, voilà, dans toute sa richesse et sa diversité. Et donc, il y a très clairement dans EuropaVox aussi une volonté citoyenne et tournée vers la jeunesse.
Alors
c'est une combinaison de ces deux actions qui fait le cœur du projet EuropaVox.
Alors comme on dit souvent, par-dessus les frontières, jetant la main, l'Europe de mes frères naîtra demain. Ce n'est pas qu'un festival, je pense, EuropaVox, c'est aussi un média, c'est d'autres moyens de faire rayonner cette culture européenne. Ce média, on y trouve quoi ? Il sert à quoi ? Il sert à porter juste le festival ou il va au-delà ?
Non, il est là. Ben, initialement, on l'a créé grâce à Europe Créative, hein, dont on est lauréat depuis maintenant près de 8 ans. En fait, l'idée du média, ben, c'était aussi pour porter la voix un petit peu plus loin et de manière un peu plus permanente, celle du festival. C'était de dire que, ben, à côté du festival à Clermont, tout d'abord, ben, on a créé des petits frères et des petites sœurs dans 6 autres pays. Donc, on a des partenaires un peu partout en Europe, en Belgique, en Autriche, en Italie, en Croatie, en Lituanie, etc., qui tout au long de l'année proposent eux aussi leur festival EuropaVox à destination de leur public. Mais après, le média, ben, ça nous a permis, en nouant des partenariats avec des journalistes d'une vingtaine de territoires également, ben, d'être présent toute l'année, défendre des groupes toute l'année, d'écrire des articles aussi, avec cette scène, la jeune aussi, scène
européenne,
absolument.
Éditoriale, oui.
Et ça nous permet non seulement de présenter des artistes, mais aussi de présenter sur des articles un peu plus longs un visage aussi de l'Europe qu'on connaît pas forcément. Mmh. On a publié notamment la semaine dernière un papier assez long et documenté sur la scène musicale ukrainienne, et en donnant la parole à beaucoup de ces acteurs, en expliquant comment les artistes, évidemment, dans un contexte aussi tragique, peuvent continuer à créer, à donner de la voix pour être entendu aussi. Ça fait partie également des missions du média. C'est un autre regard sur l'ensemble de l'Europe.
Mmh. Alors, 2006-2023, presque 17 ans maintenant d'existence, par rapport à l'idée originale, à l'idée initiale, on dit souvent qu'il faut mesurer l'impact. Quel impact vous pouvez mesurer de cette activité lancée il y a désormais 17 ans maintenant ?
Bah, c'est parfois un petit peu difficile, mais les impacts objectifs qu'on a pu atteindre, c'est d'une part sur la, à nouveau hein, par rapport à nos objectifs initiaux, d'une part sur la circulation des artistes, on accompagne depuis effectivement 17 ans, on accompagne un petit millier de groupes quand même.
Ce qui est quand même déjà très très bien.
Pays, ouais, absolument, et avec beaucoup de fidélité. Et donc on voit aussi que une fois passé dans nos événements, dans nos festivals, dans nos projets, on est facilitateur pour que on mette en relation les groupes non seulement avec des nouveaux publics, mais aussi avec des nouveaux professionnels. Mm-hmm. Et donc c'est aussi souvent grâce à nous que les artistes trouvent des maisons de disques, des producteurs, des tourneurs sur d'autres territoires qui leur permet de voyager dans la durée, pas que sur nos événements. Ça, c'est la première source de satisfaction. Et puis après, la seconde objectivement, c'est nos audiences. Voilà, le festival, au tout début, à Clermont-Ferrand, était somme toute assez modeste en termes de fréquentation. Aujourd'hui, on rassemble près de 100 000 spectateurs sur l'ensemble de nos événements tout au long de l'année. Mmh. Et on touche avec notre média près d'un million de personnes chaque mois.
Ce qui est
quand même pas mal. Et avec des retours généralement aussi très positifs de la part de public. Pourquoi ? Parce que on propose aussi, grâce à nos directeurs artistiques pan-européens, des propositions réellement originales qu'on n'a pas l'occasion d'écouter ailleurs.
Alors, je disais que vous faites partie de l'écosystème Young Inspiring Europe, porté par la Fondation Hippocrène. C'est important d'être au sein de cet écosystème. Qu'est-ce qu'il vous apporte, cet écosystème, et qu'est-ce que vous venez y chercher exactement ?
En fait, il apporte énormément. Nos relations avec Hippocrène sont aussi nées de longue date. Et en fait, il nous permet, ce qui est fondamental quand on est aussi un projet, parce qu'on reste aussi néanmoins un petit projet, c'est les échanges. Mmh. Sont les partages, c'est le fait aussi de se nourrir des expériences d'autres acteurs, parce que donc il y a beaucoup d'associations, de projets qui sont culturels, mais pas que, qui sont culturels et citoyens au sein de l'écosystème, mais qui partagent des valeurs absolument fondamentales. C'est ça le trait d'union entre tous ces projets, c'est la dimension européenne et puis la dimension et cette volonté aussi de s'adresser à la jeunesse. Mmh. Voilà, c'est vraiment ça l'ADN de notre...
Donc se rencontrer, parler, échanger pour pouvoir ensemble progresser. Le prochain festival, c'est le 30 juin prochain à Clermont-Ferrand, le prochain festival en France, j'entends. Qu'est-ce qu'on aura à la programmation ? Il est encore temps, je suppose, de pouvoir prendre ses places ou c'est déjà presque complet ?
Non, il reste encore quelques places. Pour l'instant, donc 30 juin, 2 juillet, on a annoncé essentiellement la programmation française, des beaux noms à l'affiche, hein, Aurel San, Mathieu Chédid, Louise Attac, aussi la nouvelle scène rap, Josman Tiakola, etc., Pomme, et qui va être rejoint d'ici une quinzaine de jours par une trentaine d'artistes d'autant de pays différents qui vont se produire. Donc là, c'est centre-ville de Clermont-Ferrand, mais dans un très bel espace de plein air, et qui va être notamment aussi dédié à la diversité européenne et notamment aussi à la candidature que
Clermont-Ferrand
porte et défend en ce moment pour être capitale européenne de la culture en 2028.
C'est ce que vous souhaite. Merci beaucoup François Missonnier d'avoir été notre invité de 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de nous quitter pour mieux nous retrouver bien évidemment la semaine prochaine ou en podcast, car je vous rappelle que l'écho des solutions est disponible en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr, et si vous voulez écouter cette rubrique et toutes les autres rubriques, vous les retrouvez aussi sur le site d'rcf.fr. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve nous la semaine prochaine. D'ici là, passez un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Au revoir.